Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent.
Marie Richard.
Ça y est, puis 21h.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Si l'on est certain de tout pouvoir mimer, alors tout peut apparaître et l'on peut non seulement tout voir, mais tout avoir. Des poneys transparents, des sushis qui n'existent pas encore, de l'amour évanoui, une fratrie et un peu de confiance, on peut peupler et se peupler, on peut déjouer la solitude, c'est le théâtre. Pendant la moitié du spectacle, s'il se passe quelque chose qui a rempli les salles ces trois dernières années, vous vous défendez, Vincent De Dienne, d'interpréter un one-man show avant de prendre légèrement peur en réalisant qu'il est certainement question de cela, et rien de grave, c'est au fond ce dont l'adolescent de 14 ans rêvait en découvrant Muriel Robin sur VHS dans les affaires de famille. Le temps a passé, et ce n'est pas une cassette vidéo que vous avez dans les mains, nous rappelle la douce voix du menu DVD de votre spectacle édité chez TF1, c'est assez rare que je le dise à ce micro, cette chaîne, donc je le redis,
pardon, Marie.
C'est un spectacle, s'il se passe quelque chose, publié donc chez TF1. Bonsoir Vincent De Dienne et merci d'être là.
Bonsoir Marie, merci de m'avoir invité.
Je dis le temps a passé, évidemment on passe d'une VHS à un DVD, le temps a aussi passé depuis que ce spectacle a été créé, depuis qu'il s'est joué. Qu'est-ce que ça fait que de voir en parler encore et peut-être de continuer comme ça, une sorte de queue de comète de quelque chose qui a déjà une grande histoire en fait?
Oui, c'est le début d'une espèce d'adieu en ce moment. Je commence à dire doucement adieu à ce spectacle. Et c'est, bon, comme j'ai une grande propension à la nostalgie immédiate, c'est-à-dire qu'à peine les choses, à peine j'ai commencé à manger un fondant au chocolat, je commence déjà à le regretter. Regretter qu'il soit fini. Ça me fait en même temps de la nostalgie et en même temps, de la joie parce que comme il m'a apporté beaucoup, comme il m'a fait vraiment apparaître, il a créé beaucoup de choses dans ma vie, ce spectacle. Je lui dis au revoir avec joie aussi.
Et je dis rien de grave dans cette introduction, rien de grave comme le jeu. Plus le spectacle avançait, plus j'avais l'impression que tout était là, en fait, dans ce mot, y compris la gravité de ce dont il s'agit dans le verbe jouer. C'est un verbe qui vous évoque quoi ?
Énormément de choses. Énormément de... C'est un verbe très complexe pour moi parce que ça évoque de l'enfance, ça convoque beaucoup d'enfance, beaucoup de folie, parce que c'est vraiment c'est un verbe qu'on attribue, qui joue sinon les enfants, les acteurs et les fous aujourd'hui. Et donc moi ça a peuplé beaucoup, ça m'a créé beaucoup de copains, de famille, de d'amis imaginaires, de jouer. J'ai beaucoup joué parce que comme j'ai passé beaucoup de temps tout seul dans l'enfance et puis dans l'adolescence et beaucoup dans le célibat, j'ai beaucoup joué à toute forme de jeu seul. Donc ça m'a inventé des amis. Et puis jouer, c'est bizarre d'en faire un métier aujourd'hui. C'est bizarre de le prendre, ce verbe-là, au sérieux. Mais en même temps, ça ouvre des paysages et des contrées sans cesse renouvelées, donc qui me plaisent beaucoup.
J'ai une approche hyper scolaire de la chose, et c'est une de mes ficelles pour faire rire aussi, c'est de m'attaquer à des choses que je ne connais pas, et de tomber en public, quoi, finalement, qui est une forme de comédie qui est... C'est la physical comédie, mais appliquée aux mots. Et donc, l'idée, c'est que je me lance dans une stand-up comédie et que je ne sais pas raconter des blagues, je ne sais pas comment faire rire. Et du coup, et c'est pour ça que je commence le spectacle comme ça, j'enlève un peu le haut niveau d'attente des spectateurs et je dis que ça va pas forcément être pour faire rire. Et puis, je sanctionne les blagues qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Et du coup, j'entame une réflexion sur qu'est-ce que c'est quand on raconte une blague, le faire rire, c'est l'efficacité? Est-ce que c'est ça qu'on essaie de viser? Ou est-ce qu'on essaie de mettre en j'essaie de mettre en valeur les conventions pour soit les déconstruire, soit les comprendre, soit les casser et s'amuser avec ça, quoi. On est censé, dans les règles du stand-up, on est censé parler de soi, on est censé raconter des anecdotes sur sa vie. Donc je raconte des anecdotes sur ma vie de performeuse, c'est-à-dire de comment je fais les spectacles, mais aussi de ma vie personnelle, et au moment où j'ai écrit le stand-up 1, j'ai perdu mon père, en fait, et j'étais dans un état où j'avais absolument pas envie. J'étais plus dans un état ni de travail, ni d'écriture, et encore moins d'envie de faire rire. Et du coup, j'ai intégré cet élément-là à la stand-up, et ça en a donné une espèce de nouvelle forme qui est plus de la stand-up, qui est comment on fait pour continuer à faire des choses quand on est dans un état qui nous en empêche.
C'est la voix de Bettina Atala qui, presque en disant la stand-up, on fait vraiment quelque chose de très très différent. Elle parle du fait de mettre en valeur les conventions, en tout cas de les souligner pour les dénoncer, pour en faire aussi l'un des mécanismes de l'humour et du rire. C'est quelque chose auquel vous vous êtes donné dans S'il se passe quelque chose. Pendant longtemps, Vincent De Dienne, dans ce spectacle, vous vous demandez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et ça devient presque, en fait, le gimmick du spectacle.
Oui, et c'est marrant parce que au moment de l'écriture et de la mise en scène, je ne m'en suis pas rendu compte. Enfin, je ne me suis pas rendu compte que c'était ça que je faisais, que j'en faisais un gimmick et que j'en faisais...
Ça, cette interrogation.
Oui, cette interrogation. Je ne me suis pas rendu compte que finalement, c'était un spectacle sur le fait de faire un spectacle. Et ça m'a beaucoup plu que ça m'échappe, parce qu'en fait, c'est ce que je préfère, moi, comme spectateur au théâtre. J'adore les spectacles qui parlent de théâtre, j'adore les films qui parlent de cinéma, j'adore les chansons qui parlent d'écrire une chanson.
Ouais.
Et je me suis pas rendu compte que c'était ça que je faisais, mais ça m'a bien plu quand je m'en suis rendu compte. Mais oui, mais parce que c'est aussi ce que j'aime, c'est faire confiance aux spectateurs. C'est-à-dire que souvent dans ces formes de spectacle d'humour, on ne compte que sur le sens de l'humour des gens. On se dit voilà, moi je fais un spectacle drôle, les gens viennent rire et c'est là-dessus que je compte. Moi j'aime bien comme spectateur qu'on fasse confiance à plus de choses chez moi, c'est-à-dire qu'on fasse confiance à mon sens du rythme, de l'humour, à mon interrogation de la forme. Donc c'est pour ça que je m'amuse à feinter, à interroger ce que je suis en train de faire au moment où je le fais.
Et d'ailleurs, Bettina Atala parle des attentes, qui sont des attentes très grandes. Alors, on pourrait considérer que nos attentes, elles sont grandes devant un film d'amour, autant que devant une pièce de Marivaux, autant que devant un spectacle d'humour. N'empêche que la question de l'efficacité, quand il s'agit d'humour, est très présente. Est-ce que ça a peut-être, je ne sais pas, intensifié l'idée qu'on vous attendait sur quelque chose, Vincent De Dienne?
En fait, dès que je commence à me poser cette question, c'est complètement paralysant pour moi. C'est-à-dire que là, je peux vraiment... Il n'y a pas une meilleure recette pour faire en sorte que je sois vraiment sinistre que je m'interroge sur ce qu'on attend de moi. Mais moi, je trouve que c'est perdu d'avance. En fait, c'est pour ça que j'aime pas le mot one man show, que j'aime pas dans les programmes de salle, quand je suis en tournée, j'aime pas quand je vois que je suis dans la catégorie humour. C'est que je trouve que ça n'existe pas de vouloir faire rire les gens, enfin de s'attendre à rire. Comme le rire est une surprise, c'est un mécanisme, une chimie qui joue sur la surprise, on ne rit que parce qu'on ne pensait ne pas rire. Et si on s'assoit dans une salle de théâtre en se disant « Alors, moi je suis tout prêt à rire, là j'ai déjà bien échauffé mes zygomatiques », je trouve que c'est quelque chose qui est perdu d'avance.
Et si la salle ne rit pas ?
Eh ben, si la salle ne rit pas, c'est grave et pas grave. C'est-à-dire que si la salle ne rit pas, il y a parfois la salle ne rit pas. En fait, parfois, et ça c'est un équilibrisme assez qui m'intéresse vachement, mais que j'ai pas encore, même au bout de 300 représentations, pas bien compris. C'est que parfois, je pense que je suis dans une humeur où je penche un petit peu plus d'un côté que de l'autre, qui fait que la salle le ressent. Et pour peu que la salle soit globalement aussi dans cette humeur-là, ça peut être plus émouvant, plus silencieux, plus... Et je pense que ça tient à pas grand-chose, ça tient à des micro-détails de comment j'entre en scène, de est-ce que je souris un peu plus ou un peu moins, est-ce que les gens sont un peu... Est-ce qu'il fait peut-être même une histoire de température de salle, enfin c'est... des tout petits ingrédients qui font que la mayonnaise a un goût drôle,
hilarant,
ou plus touchant, ou plus... Et c'est grave parce que c'est horrible de vouloir faire rire les gens et que les gens ne rient pas.
Mais donc ça, c'est vos attentes?
Ça, c'est mes attentes, qui sont de mauvaises attentes, peut-être, mais en même temps... En même temps, comme les gens viennent, j'entends aussi que les gens viennent passer un bon moment. Et moi, j'ai mon côté paternel, ou je sais pas comment, où j'ai envie de prendre cette salle dans mes bras et de me dire, bah, vous n'en faites pas, je m'occupe de vous pendant une heure et demie, et je sais très bien que je ne m'occupe jamais aussi bien des gens que quand je les fais rire moi-même, de mes copains, de mes amoureux, ou de, bon, mon chat. Et donc c'est grave aussi pour ça, c'est mes attentes, et c'est pas grave parce que il peut se passer bien d'autres choses que le rire dans une salle de spectacle.
Et le soin peut passer par autre chose quand vous dites finalement c'est une façon de prendre soin à la fois des gens qui sont là mais aussi d'une durée de temps et on y reviendra, prendre soin d'un temps. Vous entrez en scène nu et je trouve que vous prenez soin de faire de cette nudité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de très grande délicatesse dans cette entrée. J'imagine que c'est beaucoup de travail.
Ça me fait trop plaisir, Marie. Parce que d'abord, la délicatesse, c'est peut-être pas franchement à la mode, mais c'est quelque chose qui me plaît infiniment et qui me fera toujours courir et parcourir des kilomètres à sa recherche. Et c'est vrai que c'est du travail, c'est de la vigilance. C'est que c'est tellement ténu, c'est un fil entre l'indélicatesse et la grossièreté, ou entre la pudeur et l'impudeur, il y a comme ça un fil de peut-être 1 millimètre sur lequel il est très intéressant de marcher, mais c'est funambule, quoi. C'est-à-dire que parfois, je pense que parfois, ça peut être moins délicat que certains soirs, et ça dépend, c'est un peu pareil, c'est un peu minuscule, un peu comme ça, invisible. Mais c'est pas tant une somme de travail qu'une somme de vigilance et d'attention.
Ou d'un travail qui est vraiment toujours refait et reprogrammé chaque soir. La vigilance, c'est un mot que vous utilisez énormément.
Ah mince.
Ouais. Mais non, c'est intéressant parce que ça dit une forme d'éveil. C'est comme si vous étiez vigilant. Vigilant à tenir sur ce fil-là. Vigilant à ne pas tomber d'un côté ou de l'autre.
Oui, mais parce qu'en plus, comme c'est très autoritaire d'être seul en scène. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment la formule qui peut convoquer le plus rapidement des mauvaises habitudes,
du pouvoir.
Oui, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me fait horreur, ou d'avoir comme ça une espèce de pouvoir a priori ou de séduction a priori du type qui est dans la lumière, qui est tout seul, qui est un peu connu, qui est maquillé, qui a écrit son truc, machin, que les gens viennent voir. Ça me démultiplie moi ma vigilance à pas faire d'abus de pouvoir. Voilà.
D'ailleurs, dans certaines phrases, vous les désamorcez au détour d'une phrase, d'une virgule, en hurlant, en demandant à ce que ce soit à rire ou en demandant une écoute. C'est-à-dire comme s'il y avait cette espèce de risque d'abus de pouvoir qui était là en train de bouillir et dont vous dévoilez avec humour qu'il est là, qu'il existe.
Oui, parce qu'on est tous complices, on sait tous, spectateurs et moi, ce qui est en train de se jouer, donc j'aime bien que tout soit à vue, même si on s'amuse, j'aime bien m'amuser avec les gens au secret. D'un coup, on fait apparaître quelque chose et puis on le retait, on en refait un secret. J'aime bien faire. En fait, souvent les gens seuls en scène disent, oui, mais moi mon partenaire c'est le public. C'est vrai et pas. Enfin, c'est-à-dire que pour que ça devienne vraiment un partenaire, le public, il faut vraiment lui tendre la main. Enfin, c'est un effort. C'est un effort à faire.
De sa part ou de la vôtre.
De la mienne. Ouais.
Tout en disant au public, en lui hurlant dessus, que ce n'est pas un spectacle interactif.
Oui, ben voilà, c'est bourré de paradoxes tout ça.
J'ai décidé de cesser de dire que ça me rendait triste de plus écrire, parce que je me suis dit, bon, ça va devenir une ritournelle sempiternelle, ah, j'écris plus, ah, je suis triste de plus écrire et tout ça. Bon, j'ai décidé plutôt de renverser un peu la vapeur et de me dire que c'est pas une impuissance, que c'est pas un vide, que c'est quelque chose de très déterminé, de très constitutif, et que c'est une façon aussi de délimiter, c'est-à-dire après ce livre, je crois que j'ai une responsabilité, vraiment, je peux pas écrire n'importe quoi, je peux pas écrire une pochade, je peux pas non plus écrire la suite, je crois, je sais pas, j'écris mon journal depuis 10 ans, mais ces choses-là, pour l'instant, elles me bouleversent tellement. Dans mon journal, bon, j'écris fibroscopie gastrique, mais j'écris point, je tire un trait, je dis pas ce que c'est, je dis pas ce que ça m'a fait, je dis pas
Pour l'instant, je ne peux pas les raconter.
Lui aussi, il est bourré de paradoxes. C'est une archive d'Hervé Guibert de 1990. J'ai décidé d'arrêter d'écrire, dit-il. Il faut quand même bien savoir ce qui se cache sous cette expression. 1990, donc, Hervé Guibert qui parle à la radio. Vincent Dedienne, Hervé Guibert, c'est quelqu'un aussi avec qui vous avez une histoire pour avoir porté ces mots sur scène et qui parle, je trouve, de la tentative d'écriture qui est la vôtre dans « S'il se passe quelque chose ». Avec Duras, dans son dialogue avec Duras, parce que si vous avez décidé quelque chose, c'est de parler. De parler de quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur scène, c'est-à-dire de vous. C'est quoi comme décision ?
C'est une décision... c'est une décision universelle. Enfin, c'est-à-dire que c'est justement Guibert... quand j'ai découvert Guibert... C'est pas la même génération que moi, Guibert, c'est pas la même vie. Moi, j'ai découvert quand j'étais en plus encore en Bourgogne. Donc c'est moi j'étais en Bourgogne, lui c'était Paris. Il y avait pas grand-chose en commun. Et pourtant, ligne après ligne, notamment dans son journal dont il parle, le Mausolée des Amants, j'étais le seul sujet de son écriture. Ça parlait de moi à chaque ligne, vraiment comme si c'était et mon frère et mon amant et mon père et bon. Et donc, la décision d'écrire sur soi, c'est une décision d'écrire sur le... d'être très universel. C'est-à-dire que je me suis dit, il m'a vraiment autorisé, Guibert, à écrire au plus près de l'intime pour être universel. Et voilà, je sais pas si ça répond à votre question.
Si. Mais... Et le fait de doubler la mise en commençant votre spectacle par une archive de Marguerite Duras, qui parle de l'autoportrait, qui parle de la trace de l'enfant sur la vie de l'adulte, c'est vraiment une manière, pas de nous dire que tout ce qu'on va entendre est vrai, mais de nous dire que tout ce qu'on va entendre est intime.
Oui, absolument. Non, mais en plus, ça me fait rire d'avoir convoqué dans ce spectacle et Duras et Guibert, parce que les deux se détestaient vraiment. Je sais que Duras disait... parce qu'ils étaient tous les deux aux éditions de Minuit, et Duras disait « Mais comment ça se fait que moi, je vends ?» Elle était très méchante. Je sais qu'elle avait détesté, par exemple, les chiens de Guibert, elle avait trouvé ça vraiment ignoble. Moi, j'aime bien... Je trouve que c'est la moindre des politesses de...
D'avancer nu ?
Ouais, d'avancer nu et d'avancer à découvert, oui. Quand on décide de réunir des gens dans une salle de théâtre, et de parler de soi. C'est-à-dire que, bizarrement... bizarrement, même si finalement je m'habille sur scène, c'est-à-dire que c'est pas tant une mise à nu qu'un camouflage, parce que j'apparais nu très très peu et après ça n'est que du costume. Donc finalement c'est plutôt du camouflage. Mais être intime, je me dis que c'est ça qui vaudra le fait que les gens se soient déplacés, qu'ils aient garé la voiture au parking, qu'ils aient pris une babysitter. Enfin, je trouve que c'est la moindre des choses.
Qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce qu'on propose ? De quelle manière est-ce qu'on prend soin justement du temps que les personnes offrent en venant écouter, en proposant une partie de sa singularité ? Qu'est-ce qu'on met en partage quand on parle de soi et dont vous dites que c'est la moindre des choses ?
Eh bien, c'est par exemple l'inverse d'une publicité. Ça serait faire l'inverse d'une publicité. Une publicité, ça serait ne montrer que ce qui vaut la peine d'être acheté, ce qui est enviable, ce qui est désirable, ce qui est malin. Moi, je trouve que ce qui vaut la peine de venir au théâtre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est là où c'est grotesque, c'est là où c'est pas bien rafistolé, c'est les failles, les lacunes, les incapacités, les lâchetés, les faiblesses, les trous. C'est ça que je trouve qui est agréable de voir au théâtre, enfin qui est agréable, qui vaut la peine d'être mis en jeu.
C'est un spectacle que vous avez écrit à plusieurs, pas que tout seul.
Non, enfin j'ai écrit tout seul dans mon coin, sans savoir ce que j'écrivais, un gros fichier Word qui durait 5 heures en lecture.
En comique.
En comique sans MS.
Oui. Sans MS.
Je l'aime pas cette. J'aime bien Arial comme nom, mais.
Pour la police. À partir de quand justement ça devient autre chose que 5 heures de lecture Word ?
Il a fallu qu'une amie jette un œil sur ce gros monstre et me dise « Oui, je pense que si on enlève 3 lignes sur 5, ça, c'est jouable. » Et après justement, il a fallu enlever... parce que L'intime, bah c'est la vigilance. Je l'ai pas eu. Voilà, ça a été des yeux qui ont rapporté encore un peu de vigilance supplémentaire, parce que parfois, à trop être intime, on était un peu dans le règlement de compte. Plus comme c'est un spectacle que j'ai écrit après un chagrin d'amour, le règlement de compte amoureux, ça vraiment, je trouve qu'il n'est pas théâtral.
D'ailleurs, il est assez secret, il n'intervient que à la toute fin.
Oui. Voilà, donc c'est Juliette Chéniaud et Mélanie Lemoine, quand elles ont regardé le texte, elles m'ont aidé à rajouter un peu de fiction là où il y avait trop de vérité.
Quant aux vérités, elles sont nombreuses, elles sont assez simplement évoquées, c'est-à-dire, ou simplement énoncées. Ben, vous commencez par une sorte de fiche d'état civil. Je m'appelle comme ça, je suis née à tel endroit, j'ai été adoptée par deux parents. Par ailleurs, je suis aussi homosexuelle. Je fais tel métier, c'est-à-dire je suis comédien. Bon. Et en fait, ça vous écoutait au départ, je me disais, ça ne paraît rien, mais ce n'est pas rien. De dire ce qu'on est, avec aplomb, debout, devant plusieurs centaines de personnes, en étant simple, en disant « je suis ça ». Je sais pas, ça m'a paru être pas drôle, mais un geste important que de faire ça.
Oui,
ça l'était encore.
Ça l'était encore plus au tout début de ce spectacle, parce que c'était vraiment une mise... Ce spectacle, c'était une mise... c'était la première fois que je disais « je » et que j'écrivais. Parce qu'avant, j'avais joué bon, Guibert, Dostoïevski, machin Molière... Machin Molière, Machin Méril, des auteurs. Et là, dire « je », oser dire « je serai le sujet de ce spectacle » et commencer par vraiment un... C'est comme un speed dating, en fait. C'est dire « bon, ben voilà, je sais pas si ça va vous intéresser... »
Ce que vous voulez de moi.
Oui, c'est ça. Je peux pas dire mieux que ça et j'espère que ça va suffire.
Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans sa triste robe de moire avec des cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas, je sais que tes amours sont mortes, je suis revenu, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte. Elle est revenue, elle est là. La solitude, la solitude.
On s'est dit, c'est lui ou c'est Barbara? Ou c'est lui qui chante Barbara? Vincent Dédienne.
Hein? Non, c'est plus que c'est ça. Ça, c'est vraiment... je l'ai vu 4 fois, ce concert. 3 fois au Bouffe du Nord, 1 fois au Cirque d'Hiver. Et il a sorti le live... Et le live, on entend son souffle quasi asthmatique qui chante, et c'est vraiment indicible, hors norme, je sais pas ce que c'est que ce truc.
Mais peut-être parce que c'est de l'intime, Gérard Depardieu qui chante Barbara. Quand vous dites on sait plus ce que c'est, on sait pas ce que c'est parce qu'on n'a pas le droit de savoir ce que c'est exactement.
Ouais. Oui, oui. Ah oui, sans doute. Sans doute, c'est une comme un verrou à travers lequel on voit et on n'aurait pas tellement le droit. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a ouvert un tout petit espace dans la maison de Précy, dans l'œuvre de Barbara, et que il nous a autorisé à nous y engouffrer un peu, et que c'est, ouais, c'est très secret.
Et c'est l'idée de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois tout mettre à nu, tout mettre à vue, et dans un geste absolument simultané, continuer de garder le costume, continuer de masquer, continuer de rester secret.
Mais c'est encore plus bouleversant parce que ce geste-là, c'est prendre un micro et chanter en public.
Pour Gérard Depardieu.
Pour Gérard Depardieu, ouais. Et c'est pas son métier. Donc c'est un geste fou et périlleux. Enfin, il y a pas beaucoup de danger là-dedans, mais c'est une mise en jeu un peu surnaturelle et extraordinaire, pas normal.
Encore pour lui, vous pensez? Encore pour un homme dont c'est le métier que d'être devant les autres, le métier que d'être filmé, d'être regardé, d'être écouté.
Oui, mais chanter, c'est quand même pas rien chanter. Et par exemple dans le live, il dit à un moment il dit je fais comme les professionnels, je bouge mon pied de micro. Et c'est bouleversant comme il dit, ça fait du bien de faire comme si. Donc ça dit bien que c'est pas normal.
Ce qui nous ramène au jeu dans votre spectacle, s'il se passait quelque chose, ça parle de quoi cette idée du quelque chose qui pourrait peut-être se passer sur scène, qui pourrait peut-être se passer pendant une heure et demie en compagnie de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, Vincent Dodienne?
Ben, ce serait une rencontre, un moment. C'est pas grand chose de plus. C'est le vœu formulé que un moment ait lieu, qu'il soit pas vain, qu'il soit pas nul, qu'il soit vraiment partagé, c'est-à-dire vraiment une rencontre, quelque chose d'avoir fait une fête. Je trouve que c'est de moins en moins une fête d'aller au spectacle. J'ai beaucoup tourné ce spectacle et je l'ai joué souvent dans des salles où les places sont prises d'assaut par les abonnés, qui est un public vieillissant. Il y a toute une génération qui ne s'abonne plus. Enfin, c'est un système de consommation de spectacle qui appartient quand même un peu à une génération. Et on sent pas que ça soit une fête particulière d'aller voir moi ou d'aller voir un peu plus tard dans la saison François Morel ou un peu plus tard Vincent Macaigne ou machin. Et moi, j'aime bien que ça soit un peu endimanché. C'est-à-dire que j'aime bien que ça soit un peu cotillon, un peu, je sais pas comment dire, un peu festif, un peu... En fait, quand on fait une fête, quand on organise un anniversaire, quand on organise une fête, on a toujours peur que ça prenne pas. On se dit, ah, et puis à un moment, on se dit, ah, bon, ça, c'est bien, ça commence à danser. Ben voilà, c'est un peu ça. S'il se passe quelque chose, c'est... Espérons que la piste de danse se remplisse.
Et ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire, c'est suspendu complètement à ce que vous allez pouvoir donner, mais aussi à ce qui va pouvoir être reçu. Donc, s'il se passe quelque chose, il est vraiment retenté chaque soir, ou vous pensez que la convention est trop forte et qu'il va forcément se passer quelque chose parce qu'on a payé sa place?
Eh ben non. Des fois, il ne se passe pas quelque chose. Il se passe un peu moins que quelque chose. Et ça, ça a été mon apprentissage dans cette grande tournée que j'ai faite. C'est-à-dire que, je me suis dit, au bout d'un moment, les soirs doivent se ressembler quand même. C'est-à-dire que je connais tellement bien mon texte, que je connais tellement bien, je sais tellement ce qu'il faut faire, commençant un peu à me connaître, il va forcément se passer quelque chose qui sera un peu similaire de soir en soir. Et en fait, il n'y a pas un soir qui ressemble à l'autre. Mais ça, c'est parce que je pense que si le spectacle était... si j'avais fait des sketchs, par exemple, avec des personnages, avec des choses un peu plus hermétiques, peut-être que ça se... Et puis si je faisais des zéniths... C'est-à-dire, en fait, plus il y a de gens aussi, plus on a de la chance... Plus on a de chance que les soirs se ressemblent. Mais comme moi, je fais plutôt des petites salles et que les gens sont jamais les mêmes et que moi, je suis jamais les mêmes et que le spectacle est... qu'il n'y a pas beaucoup de filtres... Enfin, je sais pas comment dire, c'est assez... même si je dis que c'est pas interactif, c'est quand même assez... j'ai quand même vraiment besoin de sentir la relation entre la salle et moi. Pour ne pas dire un peu l'amour, parce que c'est ça que je convoque, et ben parfois ça plante. ou parfois la flèche que je tire en Cupidon, elle atteint pas tout à fait le cœur, elle atteint un peu à côté, c'est un peu moins joyeux, un peu moins festif, la rencontre se fait un peu moins, voilà. De soir, enfin c'est pas toujours, et puis des fois c'est pile poil. La plupart du temps c'est pile poil quand j'ai bien réussi, mais des fois non. Et ça, j'adore me dire que voilà, par exemple à Montargis le premier soir, et j'ai raté, alors que à Nevers j'ai réussi tout de suite, que à Elancourt il a fallu 1h10 avant que ça vienne, c'est comme quand on a un rencard et qu'on sait pas quand le premier baiser va tomber. Et ça, c'est vraiment, c'est après ça qu'on court tous, le premier baiser, en fait. Et parfois, il arrive très tôt à l'apéritif, et des fois, il faut aller jusqu'à l'aube pour qu'il arrive. Parfois, il faut beaucoup d'alcool, parfois, on n'a pas besoin d'alcool. Et ben voilà, de soir en soir, avec les spectateurs, c'est un peu ça qui se passe.
Quand c'est pile poil avec une salle, ça fait quoi ?
Ça fait à moi ou aux gens ?
À vous.
À moi, ça
fait... Les gens, je sais pas si vous auriez vous prononcé.
Non, mais en général, quand c'est pile poil, j'aime bien sortir assez vite. Et en général, quand c'est pile poil, en général, les gens m'attendent. Et moi, j'aime bien aller les voir. J'aime bien boire un verre. Et en général, ça fait des regards. C'est marrant, ça fait des gens qui ont beaucoup ri. Et qui sont tristes, curieusement, parce que il y a quelque chose, je crois, une mélancolie quand même dans le spectacle qui quand c'est pile poil existe. Et à moi, ça fait un peu la même chose, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de joie d'avoir fait rire les gens. Ça fait que j'ai eu l'impression de me redécouvrir moi aussi, comme je suis le sujet, et de m'être reconfronté à ce qu'on pouvait bien penser de moi. Et ça fait que par exemple, ça fait que le chagrin d'amour qui est à la fin, je le revis pleine poire. Donc moi aussi, ça me refait un peu de tristesse. Mais ça, c'est pas mal parce que quand même, dans une soirée, c'est pas mal que ces sentiments-là rejaillissent.
Parce que ça fait vivant.
Et ben voilà, ça fait vivant.
Non.
Par les temps qui courent, Marie Richard.
Non. Rien de rien. Non. Je ne regrette de. Je ne regrette rien.
Tout m'intéresse, ça je vois très bien le discours. Tout m'intéresse. Oh mais il y en a qui s'intéressent, les jeunes s'intéressent à rien, mais moi tout m'intéresse. J'ouvre le journal, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est fantastique, il y a des gens. Eh ben non, pour vous culpabiliser, pour vous donner, pour être plus docile en fait.
Ouais. On dit de vous, Topor, que vous avez un humour à définir, donc, mais que l'on dit tendre et cruel par
oui,
exemple.
Oui, tendre, on peut s'en passer. Ça me donne des boutons le mot tendresse. Vous savez, la tendresse. Chaque fois que les gens parlent de tendresse, je trouve que c'est des crapules. C'est des requins. Je me méfie beaucoup des mots tendresse. C'est quand le désir a disparu. C'est les relations qui existent entre les gens sans désir. Mm-hmm. Et ça me débecte un peu. L'humour, pour moi, il naît de la confrontation entre une abstraction et une évidence. Souvent. Alors, je prends l'exemple le plus simple. Le type qui dit... je vais aller en vacances à Pâques alors qu'on sait qu'il va mourir dans une semaine. Bon, c'est la confrontation. Ou bien le type à qui on propose une cigarette parce que le condamné à mort qui dit non merci, j'essaie justement de ne pas fumer. C'est cette espèce de optimisme forcené qui lui fait croire qu'il peut arrêter de fumer alors qu'il va être exécuté. Donc c'est forcément cruel puisque l'évidence, c'est la réalité. Enfin, c'est une réalité sinon objective, du moins immédiate. Et comme la réalité est invivable, évidemment, on a des projets, des illusions, des idées, des valeurs ajoutées. Et la confrontation entre la valeur ajoutée et la merde, je la trouve très bénéfique.
C'est la voix de Roland Topor dans une archive de 1993, quand on lui propose L'idée selon laquelle son humour serait, par exemple, tendre. Non, tendre, on va s'en passer.
Ouais, tendre, ça le débecte. Oui, mais parce qu'il a, il parle de désir après. C'est-à-dire que la tendresse, pour lui, il entend, dans le mot tendresse, il entend que l'absence de désir. C'est-à-dire qu'il entend l'usure de, enfin, moi j'entends ça quand il en parle, il entend l'usure du couple, l'usure des sentiments. Et parce que c'est aussi un idéaliste, Topor. C'est un absolu. Et peut-être aussi.
Non, j'allais dire peut-être aussi l'absence de désir dans la relation que suppose l'humour ou que suppose le rire, en fait. C'est-à-dire que si mon humour est tendre, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de désir et d'absolu dans cette relation-là.
Ouais, et ça veut dire qu'il n'y a pas de charnel. Et qu'il n'y a pas de... Parce que c'est quelque chose d'assez physique et sensuel et limite cul, hein, l'humour. Enfin, dans le fait de vouloir faire rire... De vouloir faire rire quelqu'un et faire jouir quelqu'un, c'est quand même tout proche. Donc il y a du charnel, il y a de l'engagement et il y a de la brutalité là-dedans. Et donc c'est pas forcément immédiatement tendre.
Quand on essaye de dire ce dont il est question dans ce spectacle, ce qu'on a assez peu fait finalement depuis le début de cet entretien, sinon dire qu'il s'agissait de vous.
Oui.
Qu'est-ce que vous diriez?
S'il fallait de nommer comme ça des sujets, je dirais que j'ai l'impression qu'il est pas mal question d'ambition et de se réconcilier avec ce terme-là et ce concept-là, cette idée-là d'ambition, de ce que c'est que d'être un enfant et de vouloir être adulte et de s'envisager adulte. J'ai l'impression que ça, en plus ce spectacle je l'ai fait à un moment, c'est pour ça qu'il est temps aussi de lui dire au revoir bientôt, c'est que je grandis, je vieillis plus vite que lui, ce spectacle. Ce spectacle, c'est le spectacle d'un, comment on appelle ça, d'un adolescent un peu plus grand, enfin c'est un âge un peu, infiniment théâtral pour le coup, entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc il est question de ça, d'adolescence, et il est question de goût. Pour des choses, pour le jeu, pour les actrices, pour l'amour, et puis les questions de ce qu'on rate, je dirais. On rate parce qu'il y a des personnages qui sont un peu ratés. Il y a des histoires d'amour ratées, il y a un physique raté. Enfin voilà. Mais c'est compliqué de savoir de quoi il s'agit, oui.
C'est plus que d'ambition, je dirais d'aspiration. C'est un spectacle qui met vraiment à plat la manière dont, en effet, un enfant aspire à quelque chose. Aspire à être des choses. Aspire à
être plusieurs.
À être plusieurs.
Mmh. Oui. Oui, donc d'aspiration et aussi d'exfiltration. Alors, parce que comme c'est l'histoire aussi d'un garçon qui veut s'exfiltrer de sa solitude, de son enfance, aussi de sa famille. Et de son corps, et de son acné, et de son, et voilà, de son univers.
Et ça, c'est passé, pour en revenir à vous, par le théâtre?
Ah oui, que par le théâtre. Par la littérature et le théâtre, et Muriel Robin, beaucoup. Ça a été Muriel Robin en Proms, qui m'a fait découvrir la littérature, c'est Muriel Robin qui m'a fait découvrir le théâtre, parce que c'est parce que j'ai découvert Muriel Robin que j'ai découvert après Lagarce, Shakespeare, et tout ça, que j'ai ouvert des pièces de théâtre et que j'ai voulu jouer du théâtre. Et le théâtre m'a fait découvrir la littérature et après la poésie et tout ça. Et tout ça m'a fait un chemin qui m'a rendu plus fort, plus costaud, plus homme.
Quand débarque la poésie comme ça, dans son jus, dans son verbe, en plein milieu du spectacle, vous appelez votre assistante imaginaire en lui demandant ce qu'elle fait là. Comment c'est possible qu'il reste vraiment de la littérature comme ça à laquelle on n'est pas touché?
C'est quoi,
que ça dégage?
Que c'est quand elle, quand il y a du Victor Hugo d'un seul coup. Quoi? C'est
bah
possible?
Quoi, c'est trop? C'est pas possible que ça existe comme ça, comme tel? Vous-même, ça vous surprend?
Oui, parce que moi, je pourrais jamais monter sur scène pour dire de la poésie, par exemple.
Ne dites pas jamais, Vincent.
Mince, bon, alors je pourrais monter sur scène pour dire de la poésie.
Mais pourquoi ? Parce que vraiment, quand c'est très drôle, hein, quand vous appelez votre assistante imaginaire pour demander ce que fait Victor Hugo dans votre texte, on sent une intimidation réelle devant la littérature, devant le verbe, devant la poésie qu'est Victor Hugo.
Oui, parce que ça m'a sauvé la vie, la poésie, et notamment les contemplations de Victor Hugo et Rimbaud. À un moment dans l'adolescence, ou à un moment où le théâtre et Muriel Robin n'y pouvaient plus rien à mon sort, en fait, j'ai fait une fugue. J'ai fugué un jour, je suis pas allé très loin, je suis allé à Toulouse.
Mais enfin,
exfiltration quand même. Mais j'étais jeune, j'avais pris le train et tout ça machin avec Illumination de Rimbaud dans la poche et les Contemplations et notamment la préface des Contemplations. Et ça m'a après j'étais pas en péril de rien, mais ça m'a sauvé quelque chose quand même. Ça m'a fait un petit secours. À un moment, j'en avais besoin. Donc, je sais que ça peut sauver des vies, la poésie. Et du coup, ça m'intimide beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce que ça peut exactement ? C'est toujours très difficile. On a entendu Roland Topor essayer de dire ce que c'était que de faire rire ou de rire. C'est toujours très difficile de dire ce que ça peut exactement, la poésie. Mais en même temps, on le dit beaucoup, la littérature me sauve, la poésie me sauve. Mais vraiment, ça fait quoi ? Ça fait quoi un être humain de lire de la poésie ?
Ça fait que la vie, en fait, la vie paraît très longue et très compliquée. Quand on est enfant, par exemple, on se dit si c'est la merde comme ça pendant encore 60 ans, déjà une semaine, je trouve ça long. Alors une année multipliée par 60, c'est long. Et quand on trouve des frères, Hugo, par exemple, ça a été un grand-père, un frère, Guibert, pareil, Duras, pareil, machin, qui eux ont réussi et qui en ont fait du beau. Et qui ont souffert. Barbara, c'est pareil. Depardieu, c'est pareil. C'est des gens qui ont souffert avant nous et qui en ont fait une trace en se disant ça servira pour après. C'est comme des médicaments contre la mort qu'on se refilerait de génération en génération, des recettes de grand-mère qui empêchent de mourir. C'est aussi clair que ça pour moi.
Et être sur scène, c'est clairement les données, c'est réactualiser les médicaments contre la mort.
Absolument.
Ni plus ni moins.
Ben, c'est quand même un art très très vivant, le théâtre. C'est quand même, on est quand même assis à côté d'autres vivants qui souffrent comme nous, qui rient comme nous. On regarde quelqu'un se débattre sur scène en vrai. C'est un bain de jouvence, c'est un bain de vie quand même. C'est une autre vie, le théâtre. Donc, je sais pas si c'est un médicament, je sais pas si c'est une médecine, mais c'est un alcool. Puissant, qui marche.
Ah, une eau de vie, j'ai entendu, ouais. Une autre vie.
Non, une eau de vie.
Attendez. Marie-France, on est obligé de tout mimer dans ce sketch ? Même la chiffonnette, là ? Et comment vous faites la graffeuse ? Parce que moi, c'est pas clair. Ah, et les gens comprennent chez vous. Ah bon ? Graffe, 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 graffe. Non, c'est pas le moment. Allez. Monsieur, vous venez vous inscrire comme demandeur d'emploi. Quoi, intermittent ? Ouh là là, comment c'est pas désagréable, hein ? Je ne vous agresse pas, vous ne m'agressez pas, c'est la moindre des choses. Oui, oui, bon, bah, dans l'ordre du truc, là. Bon, alors, non. Emploi ? Comme emploi ? Ah bon ? Prénom ? Paul ? Ben, ça n'amuse que vous, ça, monsieur emploi ! Moi, ça me fait perdre mon temps, ça fait ramer l'ordinateur, ça énerve tout le monde ! Ben, supprimez ! Les gens derrière vous, ils cherchent du travail aussi, du vrai ! Et je sais pas si vous savez, mais du travail, il y en a pas à tous les coins de rue en ce moment. Ah, c'est pas très rigolo d'être au chômage, hein ? De rester chez soi, tout seul, tout pourri. Avec cette foutue sensation que la vie vous coule du nez. Marie-France, c'est ça mon texte ? Mais qui m'a écrit ça ? Hein, vous saviez pas ? Bah réfléchissez avant d'ouvrir la bouche. Parce que pendant que vous faites des jeux de mots, il y a des gens sérieux qui se suicident. Bah alors effacez fiche. Confirmé. Ah bah vous voyez, ça bug. Marie-France, erreur 74, c'est quoi, faut faire quoi? Hein? Oulala! Parce qu'elle est pas Marie-France! Parce qu'elle est... Ah bah non, c'est bon, ça va. Ben j'en sais rien, j'ai cliqué. Bon alors on recommence. Non. Vous êtes croate? Croate. Ben j'en sais rien, ça sonne croate, votre truc. Bon alors éplé. Éplé. Épelé. Non mais... Non mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il n'y a que des consonnes, on comprend pas. Puis normalement, il n'y a pas de arrobase dans les noms de famille. Hein. Non, mais on va garder emploi, ça me paraît plus simple. Bon, alors, votre prénom? Yves? Ah. Rien, je trouve ça moche. Moi? Moi, je m'appelle Laurie. Donc, vous voyez, franchement... Et mon nom de famille, c'est Bleutonde, vous voyez, franchement, c'est banal. Bon, alors, lieu de naissance? Cassis, La Rochelle, Tripoli? Pau? Ah ben c'est bien, Pau. C'est court, ça, Pau. P-O. Pau dans le 57. 64? Ben ça a augmenté, alors. Bon, et date de naissance? Très bien, formidable. Et vous recherchez un emploi de... comédien? Moi, je sais pas si on va trouver ça dans le fichier, comédien, hein. Si on tape comédien, ben non, y a pas. Y a commis de cuisine. Non? Vous aimez pas manger? Ah bon. Bon, Marie-Fran... Oh. Non, mais pourquoi ils nous ont collé une cloison dans ce sketch? Mais oui, mais on est obligé de faire ça en permanence, tout le temps. Moi, je suis crevé, je suis vieille, c'est la fin de journée, là, j'en ai ras-le-bol. Bon, Marie-France, on peut tout mimer dans ce sketch, vous êtes sûr?
Vincent de Dienne, c'est un extrait du spectacle S'il se passe quelque chose. Ah, c'est pas très agréable.
Ah, c'est un supplice de s'entendre. C'était long en plus. Mais non, mais c'est pas grave. Mais vraiment, je suis pas fort pour m'entendre. Mais non, mais par contre, j'ai entendu un truc. Ça me fait penser à ce qu'on s'est dit, c'est que c'est quand même très bête. Il y a quand même des choses vraiment très très bêtes dans ce spectacle. Et compter sur la bêtise des gens, ça me fait trop rire.
Alors, vous comptez sur la bêtise des gens ou vous comptez sur le fait que ça fait rire les gens d'être un peu bêtes?
Je compte sur le fait que de s'apercevoir que les gens... j'aime bien que les gens rient et que ça leur déclenche la conscience d'avoir été bête de rire.
Par exemple?
Ben, par exemple, Pau, P.O. Vous habitez à Pau, Pau, P.O. C'est vraiment très bête. Les gens rient et c'est un rire un peu... Quand même, c'est comme... c'est un rire d'enfance, quoi. C'est-à-dire que on rit, on a beau avoir 55 ans.
Mais pourquoi on rit en fait? C'est vrai que c'est bizarre.
Bah,
pourquoi
pas, Pompéo bizarre.
Ça nous fait rire?
Parce que je sais pas. Ça doit connecter des espèces de cellules bêtes chez nous. On a des cellules bêtes qu'on a pas. Comme il faut tout le temps être malin, intelligent, puissant, fort. Il faut toujours montrer qu'on est. Faut toujours montrer la bonne vitrine de soi sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, avec son amoureux, avec ses patrons, tout le monde en famille. On passe son temps à ne pas être bête. Et d'un coup, il y a un guignol sur scène qui vient connecter tous les fils de la bêtise et de l'enfance et de ce qu'il y a de plus farfelu et en soi, et ça fait jaillir. J'ai l'impression que ça marche un peu comme ça, des fois, dans le spectacle.
Ce qu'on entend aussi dans ce passage-là, qui est un passage particulier, parce qu'il est un sketch, et il est dit comme un sketch avec un début et plus ou moins une fin de Marie-France, de Pôle emploi,
oui.
C'est le rapport à l'espace. Quand elle se recule, et on ne sait plus qui elle est, Marie-France ou Vincent de Dienne, et qu'elle va chercher un autre endroit de lumière, elle peut s'adresser à une assistante. D'ailleurs, c'est l'assistante qui s'appelle Marie-France, ouais. Et non la conseillère pour l'emploi qui s'appelle Laurie. Et justement, ça crée une sorte d'espace mental qui serait le vôtre et qui devient le nôtre, avec plein de compartiments sur cette scène.
Ah, génial. Ah oui.
Et ça me fait me dire, mais comment vit-il l'espace autour de lui, qui n'est pas extrêmement décoré, ni
plutôt vide.
Voilà, plutôt vide. Comment Vincent de Dienne vit cet espace pendant tout le temps du spectacle?
Moi, je suis vraiment que au théâtre. C'est-à-dire que je suis vraiment que sur un plateau vide.
C'est-à-dire que j'ai pas, quand je suis dans mon petit compartiment de Pôle emploi, je suis pas dans un box, et je suis pas dans un, je me sens pas entouré d'autres bureaux, tout ça. Parce que je sais que pour convoquer ces images-là chez les gens, il faut être très, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin, si je m'absorbe complètement dans la situation et si je suis à Pôle emploi, je pense que les gens verront plus rien. Moi, j'ai besoin d'être très, en fabrication et en, et puis comme j'adore ça, j'adore le théâtre, j'adore que les images naissent de rien, j'adore, pour en jouir pleinement pendant que je joue, il faut que je sois vraiment sur une scène de théâtre et déguisé.
Et donc, en fait, au plus sobre, en fait.
Oui, au plus sobre, enfin, sobre, en même temps, je suis quand même perché sur des talons de 10 cm avec un foulard Hermès et, et je hurle. Mais les signes sont tout petits, quoi. Oui. Il y a un téléphone, je mime un téléphone, je mime une cloison, enfin, c'est. Mais je sais pas trop ce que je fais, en fait, dans ce spectacle, hein. C'est quand même un peu le bazar. C'est le bazar dans ma tête, c'est ça que vous voyez, c'est que c'est un peu, vous voyez un peu mon grenier mental. Et ça, j'aime bien.
Quand je parlais de visualiser un espace mental, c'est que on visualise presque un peu la langue de Novarina quand il dit la langue c'est une matière, c'est un espace dans lequel on rentre. Par exemple, au tout début du spectacle, le rire arrive beaucoup, des mots qui manquent, des phrases qui s'arrêtent. Ah Alain oui. Juppé dans une.
Ah oui.
Et ça s'arrête.
Oui.
Et en fait, d'un seul coup, c'est comme si on voyait une sorte de matérialité du langage, de la pensée, avec des trous, avec des espaces, avec des gens qui entrent, avec des gens qui ne devraient pas être là, avec des gens qui n'existent pas. Comme si vraiment cette langue trouvait son espace.
Oui, mais ça serait une salle de jeu alors comme espace. Et ça me plaît parce que pour moi, le langage, les mots, le verbe, la langue, c'est vraiment très, très, très. C'est une salle de jeu. C'est très joyeux. Et j'aime bien. Enfin, moi, dans ma vie, ça a toujours été très, très joyeux la langue parlée beaucoup.
Et la langue lue, vous racontez, je ne sais pas si c'est vrai, que vous avez été un enfant qui a appris à lire extrêmement tôt, extrêmement vite.
J'ai appris à lire tout seul. Et personne me croyait. C'est pour ça que j'ai sauté deux classes. Parce que j'ai dit à mon instit, je sais lire. Il m'a dit, bah non, tu es trop petit. Et j'ai dit, bah si, je sais lire. Il m'a dit, bah si tu sais lire, tu sautes deux classes. Parce que là, t'es vraiment trop petit. J'ai lu. Et le soir, il convoquait mes parents et j'ai sauté deux classes le lendemain.
Mais ça dit peut-être quelque chose de la joie du langage, ou en tout cas d'une hâte à savoir le partager, le vivre, le parler.
C'est comme si j'avais eu envie de conduire très très tôt des gros bolides, parce que je sentais que ça allait, que la vitesse allait me plaire, que j'allais pouvoir voyager. Mais j'aime bien que ça soit en jeu, ça, dans le spectacle, et que les gens, et que ça, parce que ça provoque de l'hystérie. Quand c'est vraiment foutraque et que c'est vraiment ça provoque un rire un peu comme ça, joyeux, un peu alcoolisé, c'est une ivresse aussi les mots, et donc ça j'aime bien.
Ce qu'en vous dites, c'est comme si j'avais voulu apprendre à conduire très vite, très tôt, parce que je me serais dit que ça allait servir à quoi, le langage, le maîtriser très vite, très tôt, pourquoi?
D'abord, pour être pour l'amour, pour être populaire, pour être aimé, parce que imaginons que si j'avais été muet, par exemple, j'aurais pas été très populaire, parce que j'avais pas un physique très spectaculaire. Enfin, si spectaculaire, non, dans le mauvais sens du terme. Non, mais il m'a vraiment fallu les mots pour pouvoir avoir un ersatz, un subterfuge, un de beauté, quoi.
Zig zig hello, accrochez-vous, on va décoller avec vous pour n'importe où, pour quelques sous. Le zig zig au buffet des amours, c'est le plat du jour. Le zig zig, nous c'est notre métier de zigziguer. Nous avons de jolis coffres forts, notre corps. Et si vous voulez la clé, on va pouvoir s'arranger. Le zig zig, si si vous êtes gentil, vraiment gentil.
Le... Et on termine, on a vu passer Gérard Depardieu, Barbara, Muriel Robin. Muriel Robin, que dans votre voix, parce qu'on a cherché des archives, mais en fait, personne ne la laisse parler. Tout le monde lui coupe la parole en interview. Donc on s'est dit, c'est pas grave, il en parlera de Muriel Robin. Puis vous l'avez fait.
Ouais.
Personne ne la prend suffisamment au sérieux, j'ai l'impression, pour la laisser suffisamment parler. C'est l'idée que ça nous a fait. Bref.
Mais parce que ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Parce qu'elle est... comme elle est extra sensible et extra lucide, je pense qu'elle fait peur, parce que si elle parle, on va se rendre compte à quel point le monde, elle l'a compris, et à quel point elle est savante. Et ça, je pense que si, par exemple, si, je pense que Jean-Pierre Foucault, ça lui fait peur, oui.
On préfère pas, on préfère que les gens qui nous font rire, c'est juste ça, ils nous font juste rire.
Ouais. En tout cas, à la télévision, oui.
Ah, la télévision, ça non plus, on n'a pas beaucoup parlé.
Non.
La télévision. Bon, en tout cas, on voulait juste terminer avec Catherine Deneuve qui chante. Voilà, je sais pas, c'est juste pour vous, c'est cadeau, il n'y a même pas de questions.
Ben, merci. Alors, moi, je peux vous dire de... Parce que là, elle avait quoi, 30 ans quand elle chante ça.
Pas beaucoup plus.
Et moi, j'aime bien quand elle chante C'est beau la vie, en duo avec Benjamin Biolay. Et elle le chante là, il y a 5 ans.
Donc en fait, vous aimez bien les choses qui ont pris leur temps, qui ont...
Ah, j'ai beaucoup de goût pour la vieillesse, oui. Bon, je sais bien qu'on ne demande jamais l'âge des actrices et tout ça, mais elle est tellement belle que c'est pas une insulte de le dire. Et puis en plus, elle dit elle-même son âge. Enfin, je veux dire, ça fait depuis que je l'ai découvert que je vieillis avec... c'est moi qui vieillis avec Deneuve, c'est pas l'inverse.
Vincent De Dienne, S'il se passe quelque chose, c'est le titre de votre spectacle, le DVD, qui est aussi un livre, est publié chez TF1 Studio.
Ce soir, nous sommes septembre, et j'ai fermé ma chambre, le soleil.
Passe comme une dédicace.
Par les temps qui courent, quel train pour aller où?
Par les temps qui courent, un train pour aller dans la neige.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vraiment ne vous fait plus rire?
Par les temps qui courent, l'âge de Brigitte Macron. Et l'âge, enfin, les blagues sur ma femme. Ça me fait plus rire du tout.
Par les temps qui courent, un seul mot d'amour.
Amitié.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain. Cette émission a été préparée par Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec-de-Lièvre, réalisée par Lise-Marie Barré, avec au son ce soir Pascal Bénard. On peut se retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission, et quant à moi, je réponds @marie-richeux sur Twitter.
Soir tombé dans les miroirs, c'est ma vie.
C'est mieux ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène.
L'histoire n'est plus à suivre, et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes.